Bonjour à tous, auditeurs et auditrices, c'est Elliot en direct d'INTFM, la radio 100% innovation et nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous allons parler de la robotisation du travail et de l'intelligence artificielle. Et pour en parler de ça, quoi de mieux que des gens qualifiés? C'est pourquoi nous accueillons 4 invités dans le studio. Et bien sûr, n'oubliez pas de réagir en direct avec le hashtag INTFM ou au 06 08 49 53 15. Donc, veuillez accueillir notre premier invité. Bonjour, monsieur Andy Palmer.
Bonjour.
Donc, vous dirigez l'entreprise Aston Martin, qui, malgré l'industrialisation, a su garder son côté fait main. Donc, vous êtes diplômé de l'ENA. Votre entreprise et vous-même faites l'objet en ce moment même d'un documentaire réalisé par François Ruffin, dans lequel on nous explique comment réussir malgré une production faible et donc sans robotisation. Donc j'espère que vous saurez montrer à nos auditeurs et auditrices les multiples facettes de la robotisation et de l'intelligence artificielle. Ensuite, veuillez accueillir notre deuxième invité. Bonjour, monsieur Jean-Michel Duchaudron.
Bonjour.
Vous travaillez actuellement à Polysoud, donc une entreprise qui effectue des pièces mécano-soudées dans le bassin nantais. Titulaire d'un bac pro soudage, suivi de plusieurs diplômes d'expertise en soudure, vous avez peur de subir le même sort que vos collègues, c'est-à-dire être licencié à cause de la robotisation. D'accord. De plus, veuillez accueillir notre troisième invité ici présent. Bonjour, monsieur Kevin Gregovitch.
Oui, bonjour.
Donc, vous êtes chercheur au sein de l'IUT de Nantes.
C'est bien ça.
Et faites partie du projet Innova. Mmh. Donc, un projet qui a pour but de créer une maison avec une imprimante 3D, un bras robotique. Donc, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en robotique, ainsi qu'un master en automatisation, ayant effectué votre thèse sur la robotisation au sein de l'agroalimentaire, monsieur Gregovitch est pour la robotisation du travail et l'intelligence artificielle. Enfin, veuillez accueillir notre dernier invité, monsieur Jérôme Cheminot. Donc, Jérôme, vous êtes militant pour la CGT. Donc, vous vous battez contre les TMS. Donc, vous avez publié un livre, La robotisation, une solution pour vaincre les TMS, donc qui est sorti en août dernier. Il sera avec nous pour défendre la robotisation et l'intelligence artificielle. Donc, afin de présenter un peu le sujet à tous nos auditeurs et auditrices, donc ce serait bien que quelqu'un d'entre vous me présente ou me fasse une définition claire et concise de la robotisation, ainsi qu'une définition claire et concise encore de l'intelligence artificielle.
Ouais, je m'en porte garant.
Merci.
Moi, je pense que l'automatisation ou même la robotisation, je pense que c'est la même chose. C'est le fait de changer les opérateurs humains, les remplacer par des systèmes automatisés tels que les robots pour des tâches industrielles, tout simplement.
Donc vous voulez dire des tâches où ils pourraient remplacer l'homme?
Oui, c'est ça, comme des tâches répétitives, du travail lâché. Tout.
D'accord. Et est-ce que vous avez une définition pour l'intelligence artificielle ou je demanderai à un autre de vos collègues? Est-ce que quelqu'un...
Oui. Eh bien, le principe d'une intelligence artificielle, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'elle a été créée par la main de l'homme, par des produits. Et son principe, c'est qu'en plus d'être automatique, il peut avoir certaines facultés cognitives humaines, telles que la capacité à emmagasiner des informations, également de raisonner, et aussi de faire corréler des informations entre elles.
D'accord, donc c'est donner de l'intelligence à un programme, une machine, c'est ça?
C'est ça.
D'accord, merci. Donc on va commencer le débat avec une première question. Donc d'après vous, l'emploi est-il amené à évoluer grâce à la robotisation dans le futur ou même maintenant, de nos jours?
L'emploi va disparaître à cause de la robotisation car beaucoup de personnes sans diplôme ne vont plus avoir de possibilités de travail en fait. Et c'est un risque car les personnes sans qualification ne pourront plus travailler. C'est une transition en fait, c'est la transition qui m'inquiète, c'est pas le futur en lui-même.
D'accord. Et vous, Andy Palmer, qu'en pensez-vous?
Je pense qu'il faudra, pour les personnes peu diplômées ou en juste un bac ou un bac très peu développé, je pense que ces personnes-là ne pourront pas trouver un travail adéquat ou même pas de travail du tout. Maintenant, il faut plus des bacs, bac plus 5, des masters, des doctorats pour avoir un bon travail ou même juste un travail. Je pense que ça, c'est assez handicapant et ça, c'est du fait de la robotisation.
D'accord.
Permettez-moi de contredire cela. La robotisation va probablement faire disparaître les emplois, mais il va aussi en créer de nouveaux. Mais cela, bien entendu, nécessitera une meilleure qualification, surtout dans le côté technologique, surtout que nous venons de réaliser que depuis ces dernières années, nous recrutons plus d'ingénieurs qui ont des notions en côté technologique et informatique, et surtout sur la cybersécurité. Mais personnellement, je trouve que la nouvelle main-d'œuvre ne sera plus une main-d'œuvre physique, mais sera surtout une main-d'œuvre intellectuelle et surtout basée sur réflexion.
Moi, je suis menacé par la robotisation et je ne pense pas me requalifier. Je ne pense pas aller à l'école à 40 ans. Donc, comme des personnes comme moi, en fait, on va disparaître. Enfin, on va plus avoir de travail.
Non, je suis pas d'accord.
On va pas pouvoir se
requalifier. Il y a beaucoup d'emplois qui vont peut-être disparaître, mais il y en a beaucoup qui ont besoin pour la robotisation d'assistance humaine. Donc là, il n'y a pas besoin de beaucoup de qualifications. Juste, la robotisation est faite pour aider les humains dans leurs tâches, mais elles ont quand même besoin d'avoir quelqu'un derrière pour pouvoir les gérer, vérifier s'il y a une panne ou des choses simples. Et ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de qualifications pour les
utiliser. Vous voulez parler de
une personne à la fois, s'il vous plaît. Allez-y.
Vous voulez dans ce cas parler de travaux de maintenance, mais ça nécessite quand même des qualifications dans le fonctionnement des appareils informatiques et également pour le et également des notions technologiques. Sinon, je suppose que vous êtes soudeur, n'est-ce pas? Donc vous connaissez quand même les procédés de fabrication de fabrication par soudage, mais...
Oui, justement, vu qu'il connaît tout ça, après ce sera une machine qui va le remplacer, ce sera une machine qui va souder à sa place. Et lui, donc du coup, ce que vous proposez, c'est lui qui fasse une formation. Enfin, c'est ce qu'on propose en ce moment, c'est que lui il fasse une formation pour après qu'il assiste la machine. Il va plus souder, il va plus avoir l'outil en main. Il va juste assister la machine, la réparer au cas où il a une panne. Et ça, pour quelqu'un qui est passionné du soudage,
c'est pas du tout le même métier, c'est une transformation.
C'est pas la même chose.
Et après, avec l'assistanat des robots, il n'y aura plus du tout le même rapport avec le travail, il n'y aura plus la sociabilité homme-homme. Avec des collègues où on peut avoir de l'humour, etc., au travail, même si c'est pas productif, mais c'est toujours bien au niveau sociabilité. Ce sera que homme-machine et ce sera plus de sociabilité en fait, au travail.
Puis même l'envie va disparaître.
Voilà. Hein. Exactement.
Si du jour au lendemain vous disiez ouais, je soudais des machines, et puis là vous dites voilà, j'assiste une machine, c'est tout ce que je fais. Je la répare, ok, elle est en panne, c'est tout.
Mais sinon, en ce qui concerne votre réintégration dans le milieu du travail, vous êtes soudeur, donc vous avez des notions en cas de thermologie et également réaction du métal, des métaux face à la chaleur. Donc, vous pouvez très bien nous aider à, par exemple, optimiser la production de chaleur et éventuellement les matériaux pour nos serveurs qui justement en consomment beaucoup dû à la production d'électricité.
Ouais, je suis d'accord, mais je parle dans un cas général, je suis soudeur, j'ai des avantages par rapport à d'autres, ils ont des postes un peu moins qualifiés que moi, genre caissier ou des métiers comme cela, ils n'ont pas d'expertise en fait.
Oui.
Il n'y aura pas de remplacement comme ça pour l'évolution.
Oui, mais je pense aussi à un truc, c'est que monsieur Jean-Michel Duchaudon a des bases pas intellectuelles mais plutôt pratiques, et ça c'est le robot qui va le remplacer, donc lui il va falloir qu'il change de travail, donc c'est-à-dire passer niveau intellectuel, et donc c'est ce qu'il explique, c'est que lui à 40 ans ça va être difficile pour lui. Je pense que c'est surtout ça son gros problème.
On apprend jeune, on n'apprend pas plus âgé, on a plus de facilité à apprendre jeune en fait, retourner à l'école ou une formation à mon âge quoi.
Après les formations, comme il disait, c'est pour les jeunes. Les vieux, après, les personnes âgées sont mal, n'arrivent pas à trouver une formation assez adéquate, même n'arrivent pas trop à apprendre comme les jeunes le font maintenant.
Oui, il vaut mieux recruter des jeunes que des personnes âgées, sans expérience, parce qu'en fait, ils ont la même expérience, les jeunes et les personnes âgées, et c'est plus avantageux de prendre du coup une personne jeune, car elle a plus d'avenir.
Oui, en effet, vous avez raison, surtout que les jeunes générations ont une meilleure appétence pour les nouvelles technologies, et que justement, nous sommes actuellement en train de former des gens pour justement les initier au domaine informatique. et surtout sur la cybersécurité, car la principale chose aussi, c'est que les services doivent être sûrs si on se tourne vers une informatisation. Mais en effet, il est vrai que dans votre cas, après tout, il n'est jamais trop tard pour apprendre des choses. Vous avez quand même 40 ans. Vous êtes un homme plutôt raisonnable.
Oui, c'est sûr, mais...
Moi, sur ce que vous disiez tout à l'heure, je suis pas d'accord. Les personnes âgées, enfin, les personnes à 40 ans, il n'y a pas de personnes âgées, mais on a toujours plus d'expérience qu'un jeune qui vient de sortir des études. On a une vingtaine d'années d'expérience dans le métier. Vous avez la technique pour souder correctement, par exemple, dans votre métier. Et la machine ou le robot ne l'aura pas au début. Il va bien falloir... lui apprendre entre guillemets à le faire correctement, avoir les bons réflexes et avoir la bonne vitesse d'avance par exemple. Et ça, il va bien falloir que les ingénieurs qui le conçoivent demandent à des ouvriers tels que vous de leur expérience, et donc on aura toujours besoin de ceux qui travaillaient manuellement pour leur demander leur avis, leur expérience. On aura toujours besoin d'eux pour corriger les défauts que le robot ont, et il y en aura toujours.
D'accord, donc je pense que là on a un peu fait le tour de la question. Donc ce qu'on peut retenir, c'est surtout le fait que, d'après un peu tout le monde autour de cette table, l'emploi est mené à changer, est amené à changer avec
évoluer,
le temps, à
changer.
Évoluer, excusez-moi, merci de cette précision. Donc est amené à évoluer avec le temps, et un salarié va plutôt se tourner à une aide pour la machine, où la machine va plutôt aider le salarié à faire des tâches un peu difficiles pour lui. Les emplois de demain seront plus des emplois intellectuels, donc demandant beaucoup plus d'études, comme vous l'avez dit, monsieur Palmer. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième question, qui est un peu en liaison avec celle que je viens de poser. Donc la robotisation va-t-elle diminuer la pénibilité au travail? Et pour ça, je vais demander à monsieur Jérôme Cheminot de parler, puisque vous avez quand même écrit un livre là-dessus.
Oui, j'ai écrit un livre en
août.
En co-écriture en août avec un médecin chirurgien, pour tout ce qui est le côté médical. Et donc on a remarqué qu'en 2014 par exemple, 40 000 salariés étaient concernés par les TMS, donc les troubles musculosquelettiques. Et rien qu'en France, cela coûte 1 milliard d'euros aux entreprises. Et si on continue ainsi dans le futur, on peut atteindre en 2040 jusqu'à 2,5 milliards d'euros d'après Le Monde. Et cela pourrait correspondre à 10 millions de journées de travail perdues, et ce qui représente un coût énorme pour les entreprises. Et donc le but serait de, tout d'abord pour les entreprises, de limiter ces journées d'arrêt, mais surtout pour les salariés, de les aider à travailler correctement, sans trouble, et qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions. Et ça, la robotique pourra les aider, les assister, et ça permettra de limiter les travails répétitifs et fatigants que peut réaliser un robot.
Et qu'en pensez-vous, vous, monsieur Andy Palmer, vu que vous n'avez pas encore introduit...
Moi, je pense justement, dans mon entreprise, enfin, je vais parler personnellement, dans mon entreprise, nous avons beaucoup d'ouvriers et très peu de robots. Et franchement, ce que je vois, c'est que oui, les TMS, elles coûtent cher. Elles sont inévitables. Même si vous avez des robots, ça va les limiter, mais ça ne va pas les... Comment dire, ça va pas les supprimer. Ce qui est bien avec le robot, c'est que ça va faire. J'ai entendu parler hier à une émission Europe 1 j'ai entendu que les robots étaient plus précis, étaient moins chers, étaient enfin tout ce que vous voulez. Mais les hommes, les hommes, c'est des hommes, quoi. Après, tout le monde fait des erreurs, tout le monde se blesse, ça c'est inévitable. Les TMS, je suis d'accord, mais quel prix, quoi. si vous allez pas après la fin de tout ça, c'est pour avoir zéro TMS, pour que ça coûte rien du tout, c'est supprimer tous les hommes par des robots.
Non, c'est les assister.
Les assister.
On cherche pas à les supprimer, on cherche à évoluer.
Il y aura toujours des TMS.
Le poste de travail et les limiter. On peut pas les supprimer, c'est impossible.
Il y aura
au moins les limiter.
Il y aura toujours des TMS, même avec des robots, même si même dans le médical. Dans le médical, il y a des robots d'assistance. Robots d'assistance, pourtant qui sont très précis, qui sont bien élaborés, mais il y a toujours des TMS, des risques, des tout ça, qu'on ne pourra jamais supprimer, même limiter. Vous pouvez limiter tout ce que vous voulez, mais après les robots, je pense que ça, c'est plus cher, ça revient plus cher à coûte d'acheter un robot d'assistance pour justement éviter les TMS, plutôt que justement que les hommes se fassent mal, ouais, pour après ne plus refaire.
La santé des ouvriers est quand même beaucoup plus importante que...
Oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord.
Il faut chercher à améliorer les conditions de travail. Et la robotisation, elle permet d'aider. Effectivement, ça a coûté cher au début, mais ça va être une rentabilité à long terme. Il y aura moins d'absence, il y aura moins de... Ça va coûter beaucoup moins cher, donc pour la sécurité sociale.
Il y aura moins de travail aussi. Si vous mettez des robots d'assistance partout, après les personnes qui vont travailler, les travailleurs, ils vont travailler moins. Enfin, vous voyez, ils vont travailler moins, peut-être plus en sécurité, mais moins. Comment voulez-vous être fier de votre travail si vous travaillez moins, si vous êtes toujours assisté par des robots? Après, les gens dans l'entreprise, ils font des voitures, ils sont fiers de faire ce qu'ils font. Ils font des voitures, ils sont fiers de mettre chaque élément. Si vous mettez un robot à leur place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, rien du tout. C'est le robot qui a tout fait. Ils sont là, et bah, ils vont être là, bah, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai aidé le robot.
Parce qu'il y a un aspect culturel derrière tout ça. Si vous achetez une voiture et vous dites que c'est fait que par des robots, c'est un peu moins intéressant que de se dire que par exemple un Mark Rolls Royce où c'est tout fait main d'œuvre en fait. Oui, mais j'ai pris l'exemple de la voiture, mais c'est comme la poterie par exemple.
Oui, mais ça chaque travail vraiment manuel. Si on parle d'entreprise qui crée, je sais pas moi, 100 000 pièces par jour, c'est un peu répétitif de faire 100 000 fois la même chose. C'est long et fastidieux.
Je sais, mais c'est pour différentes. Enfin, c'est par rapport.
Chaque entreprise est différente.
Ouais, voilà, c'est par rapport
à différentes choses à faire. Des entreprises. Chaque entreprise ne fonctionne pas pareil. Il y en a qui ont besoin de. Chez vous, c'est du travail de qualité. Il y en a peut-être moins besoin. Mais pour des entreprises qui font. Une pièce tout le temps la même chose, il y a besoin d'aider certains ouvriers.
J'aimerais qu'on donne la parole à monsieur Grigovitch qui n'a pas parlé sur le sujet.
Car oui, vous racontez que vos ouvriers sont fiers de ce qu'ils fabriquent, mais vous oubliez que ceux-ci le répètent à plusieurs reprises à longueur de journée, voire même au détriment de leur santé et de leur. Ainsi que de leur. Au détriment de leur santé. Alors que par exemple, une machine, celle-ci peut travailler 24 heures sur 24 sans risquer quoi que ce soit, avec probablement une meilleure précision. Et grâce au machine learning, les intelligences artificielles peuvent assimiler ce qu'un être humain assimilerait en 3 ans, en seulement quelques minutes.
Oui, je suis d'accord. Justement, dans mon entreprise, on a fait un test. On a acheté 4 robots. On a acheté 4 robots, mais pas pour remplacer des hommes, juste en additif. C'était pour la peinture sur les voitures. On a acheté des robots. Mes ingénieurs m'ont dit que ça allait être de 20 à 30 ans pour que ce soit rentabilisé. Du coup, j'ai acheté les robots, on les a testés. Effectivement, ils sont meilleurs que les hommes, 30 à 40%, moins de pertes de voiture, meilleurs. Mais au bout de 10 ans, les robots, ils étaient obsolètes. Il y avait des nouveaux modèles, on n'était plus sur le marché. La peinture était. Enfin, moi je parle de peinture. La peinture était. Les robots qui faisaient ça encore plus vite, encore plus fort. Et nous, on était là, faut changer les robots, ça va nous coûter encore plus cher. Les robots, ils n'étaient pas rentabilisés. Si vous voulez acheter des grosses pièces, au bout de 10 ans, la technologie, elle avance extrêmement vite. Au bout de 10 ans, les machines, elles sont obsolètes. Il faut les racheter. Du coup, elles sont pas. Enfin, on gagne pas d'argent avec.
J'ai vu ça sur une étude en fait. Les robots sont entrés dans une phase de développement tellement rapide que les usines s'équipent bien et très vite et les formations ne peuvent pas suivre en fait. Il n'y a plus de personne derrière.
C'est pour cela justement que nous encourageons les étudiants et tous les apprentis à se tourner vers des études technologique, qui est principalement informatique. Et justement, moi, je travaille justement dans le secteur robotique, et justement, nous œuvrons à concevoir des appareils automatisés qui ont pour but de fonctionner de manière durable, de manière efficace, ainsi qu'une production que nous visons à être moins chère afin de la rendre accessible à toutes les entreprises, parce que nous avons réalisé que si les entreprises ne trouvent pas le moyen d'égaler leurs concurrents au niveau des moyens, ces entreprises risquent simplement de faire faillite alors que les autres continueront à rester concurrentes entre elles.
Oui, mais mon cher monsieur, les études que vous avez faites, c'est parce que vous avez fait ça, vous avez fait dans l'automatisme. Le secteur robotique, vous avez fait ça parce que vous aimez bien. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui adorent faire du manuel, les personnes qui adorent ça? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez faire, c'est l'évolution, ce que vous faites, c'est nul. Changez, faites de l'informatique, même s'ils n'aiment pas. Ouais. Vous faites ça parce que vous adorez faire ça, c'est votre métier de prédilection. Alors que les personnes qui adorent faire du manuel, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne peuvent pas faire du manuel parce que l'évolution va changer leur boulot, leur travail, excusez-moi. Mais si toutes les personnes se tournaient vers l'informatique, enfin je sais pas, les personnes manuelles, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont faire un truc qu'ils vont pas aimer, ça va pas être... Ah oui.
Vous voulez dire préconiser l'artisanat?
Toujours garder une part de manuel.
Il y en aura toujours.
Non, il y aura une diminution de l'artisanat.
Il y en aura une diminution, mais il y en aura toujours.
Oui, mais vous dites quoi aux personnes qui aiment leur métier et qui sont obligées de changer de métier?
De toute façon, la société, elle évolue. Le travail évolue et les esprits évoluent. Quand on regarde maintenant les jeunes qui ont des téléphones depuis tout petit, à l'époque, ça se faisait pas du tout.
Non, mais ça, c'est la transition. Ça, c'est le futur, je m'inquiète pas, c'est juste la transition en fait.
La transition, elle va pas se passer, c'est normal que ça se passe pas en.
Ouais, mais vous faites. Vous dites quoi aux personnes qui aiment leur métier, comme moi par exemple, que j'aime souder. Et il y a plusieurs personnes dans mon cas et on est obligé de quitter notre métier en fait.
Écoutez, grâce à l'emploi d'appareils automatisés, nous avons. Moi et mes employés, d'ailleurs, on possède désormais beaucoup plus de temps libre. Nous sommes probablement en train de contribuer à un véritable équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et justement, grâce à cela, vous possédez plus de temps libre. Et donc, vous ne pourriez pas simplement exercer ce que vous aimez le mieux en dehors de votre activité professionnelle, qui sera bien entendu actualisée avec ces nouvelles technologies.
Donc j'ai pas travaillé deux fois en fait dans la journée.
Donc ce que vous dites, c'est que vous êtes payé à rien faire, quoi.
Non, pas du tout.
Parce que si vous avez plus de temps libre, parce que moi je suis en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, on travaille 45 heures, moi je trouve que c'est quand même énorme. Vous en France, c'est 35 heures. Moi je trouve que vous êtes vraiment désolé de dire ça, mais vous êtes vraiment un peu moins travailleurs. Nous les personnes, à chaque fois en fin de journée, ils sont très contents de faire leur travail. Puis en fin de journée, ils sont contents. Alors que si vous remplacez ça par des industriels ou des gens devant leur ordinateur en train de pianoter toute la journée, je sais pas, c'est intellectuel comme travail, mais c'est pas. Je sais pas, vous sortez de votre journée, vous êtes pas épuisé. Pour moi, un travail, c'est quand on sort de la journée, on est épuisé mentalement comme physiquement. Si à la fin de la journée, on était tout le temps sur l'ordinateur, on est épuisé mentalement, mais pas physiquement. C'est pas du travail, ça.
Ah, mais à ce moment-là, vos employés n'ont plus de vie sociale. S'ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, ils vont se coucher. Rien d'autre. Ils vont travailler, ils dorment, ils vont au travail, c'est ce qu'ils font.
Oui, et après il y a des plus et des moins.
Mais... Ah oui, faut réussir à
ne sont jamais pleins de pénibilité dans le travail, de troubles du sommeil, voire de burn-out?
Si, bien sûr, il y en a quelques-uns. Enfin, ça c'est inévitable dans une entreprise, mais globalement ils sont
moi je me soucie toujours de la santé de mes collègues par exemple. Et vous pourrez dans votre entreprise, j'ai vu ça à la télé ce week-end dernier, il me semble. Ça vient d'ailleurs de Grande-Bretagne, il me semble. En France, il y a une première entreprise qui a essayé. Il y a une employée spécialisée pour détendre et faire reposer les employés d'un bureau, par exemple. Et elle est là pour les distraire, les reposer. Ceux qui sont toujours sur l'ordinateur, par exemple, ça fatigue. Vous aussi, vous avez du travail manuel, ça fatigue beaucoup. Et bien, elle est là pour, par exemple, prendre 10 minutes avec un employé, lui faire le parler, le détendre, je sais pas, moi, faire un petit baby foot avec. Et ça se développe beaucoup. Ça permet de reposer l'ouvrier, comme ça, il n'y a pas de, il y a moins de troubles, il y a moins de burn-out, il y a moins de problèmes mentaux aussi.
Excusez-moi de vous couper, je suis désolé, mais on est pris par le temps, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc j'aimerais passer directement à une dernière question. Ah non, on va passer d'abord par Twitter. Donc on a reçu un tweet donc de Monsieur Dark Pigeon qui nous dit « N'avez-vous pas peur que les robots détruisent l'homme ?» Donc est-ce que quelqu'un pourrait...
Personnellement, moi dans le secteur robotique, comment je ne comprends vraiment pas ce qu'ils essayent de dire. Comment un robot pourrait tuer un être humain ? À moins qu'on ne l'ait programmé dans ce but, tel que des robots militaires, normalement, si c'est nous qui concevons la machine et l'appareil automatique, nous envisageons donc toutes ces possibilités. Donc normalement, nous ne sommes pas supposés avoir un accident dû à une machine. S'il y a eu un accident, c'est uniquement parce que la programmation a été mauvaise ou que la personne qui l'a subi n'a pas été prudente. Mais peut-être que je pense qu'ils veulent entrevoir éventuellement l'intelligence artificielle qui commencerait à avoir des notions de mort et qui peut-être en...
Attendez, je vous arrête, c'est pas tuer, c'est détruire. Détruire, c'est pas tuer.
Donc vous voulez...
C'est détruire. Enfin là, je pense que le monsieur qui écrit ça, c'est... Enfin, il y a une notion de mort, mais une notion de morale aussi. C'est pas tuer, écrit là, c'est détruire.
Vous voulez parler d'une situation à long terme ou d'une dépôt. Ou d'une dépossession de l'homme de son savoir, vous voulez dire ?
Vous prenez le cas, par exemple, des films hollywoodiens. En ce moment, il y a beaucoup de films où il y a des robots tueurs ou des robots qui détruisent carrément des villes. Et je pense que c'est ça, le monsieur, en fait, a peur de se retrouver comme dans un film hollywoodien.
J'ai peut-être entrevu la mauvaise perspective. Vous voulez dire plonger l'homme dans l'opulence ? Vous voulez parler de
moi, j'ai assez peur du robot en fait, parce que j'ai vu une étude, c'est Google Brain. Ils ont créé une intelligence artificielle qui elle-même a créé une intelligence artificielle en fait.
Ah oui. Oui, c'est tout récent. Ouais. J'ai vu ça. C'est l'intelligence artificielle qui crée des intelligences artificielles.
Ça va trop loin, je pense. Hein.
C'est ça. Enfin, comment voulez-vous qu'on contrôle ça ? En plus, la nouvelle intelligence artificielle est plus performante que celle que l'homme a déjà créée. Plus performante que toutes celles qu'on a déjà faites.
Donc ça veut très bien dire que le robot est au-dessus de nous et va certainement nous dominer si on reste comme ça.
Non, parce que si l'intelligence artificielle, elle reste dans un ordinateur, si on ne la relie à rien, elle ne peut rien faire.
Oui, mais elle sert à quoi alors, l'intelligence artificielle ?
Bah après, ça dépend des cas et des entreprises ou des...
Mais elle est déjà extériorisée, l'intelligence artificielle. Donc, je prends l'exemple Tesla. Tesla, il se base sur l'intelligence artificielle avec la conduite autonome. Mmh. C'est dangereux, ça prend en compte la vie de plusieurs hommes.
Ouais, mais avant d'être commercialisée, l'intelligence artificielle est testée, retestée et encore testée. Pourquoi je suis pas spécialiste en intelligence artificielle, plus en moins robotique, mais je pense que si on met ça sur le marché, surtout pour des particuliers, c'est que ça a été vérifié, revérifié.
Le risque zéro n'existe pas, monsieur.
Le risque zéro, mais pour l'instant, j'ai vu aucun article passer dans le journal comme quoi il y a eu un accident.
Moi, en tout cas, je ne ferai jamais confiance à l'intelligence artificielle.
Après, c'est il y a des gens de la vieille école et de la nouvelle école aussi. Il y en a qui ont un esprit ouvert et qui peuvent essayer de faire confiance aux nouvelles technologies et à ce qui arrive au marché d'aujourd'hui.
Excusez-moi, mais il y a pourtant pourtant ce que vous dites n'a pas de sens, parce qu'il y a déjà beaucoup d'employés qui travaillent dans les métiers du nombre, tels que les comptes de bourse, qui utilisent déjà des intelligences artificielles qui désormais, grâce à cela, peuvent traiter la globalité de l'information au lieu de réaliser un simple échantillonnage. Et désormais, ils sont capables de faire corréler des informations et ainsi traiter des données avec une vitesse record.
Oui, mais ça dépend du domaine, en fait. C'est pas dangereux de traiter les chiffres.
Excusez-moi, messieurs, mais on est vraiment pris par le temps, donc on va passer à la question suivante.
Je comprends.
Du coup, on a un message d'une internaute, donc Julie. Donc, les robots vont-ils nous remplacer plus tard ? Donc, devrons-nous toujours travailler plus tard ? Donc, est-ce que c'est toujours sur l'optique de l'emploi ? Donc, est-ce que plus tard, on n'aura plus besoin de travailler et le robot va-t-il faire tout à notre place ?
Il y a des choses que le robot ne peut pas remplacer. Et moi, j'ai un exemple concret. Il y a 5 ans, on a eu une pièce défectueuse, on a eu une contrefaçon. Et on s'en est rendu compte parce que c'est un de nos employés qui s'en est rendu compte. Si vous avez mis un robot, si j'avais changé toutes mes personnes en robot, jamais on aura trouvé cette tablette qu'encore. Il y aura des DB5, des DB7 qui seraient en circulation avec ce défaut. C'est vraiment un de nos employés qui a trouvé ça. Et ça, un robot ne pourra pas le faire. Un robot, nous, nos employés ont été payés pour faire leur travail, mais ils font plus que leur travail. Les robots, si vous les mettez à leur place, ils vont juste faire le travail. S'il y a un défaut ou quelque chose qui ne va pas, ils vont faire le travail quoi qu'il arrive.
D'accord.
Je sais pas ce que vous en pensez.
De toute façon, on ne parle pas de remplacer l'emploi, on parle de l'améliorer. Il y aura toujours l'assistance de quelqu'un derrière. Donc, s'il y avait eu un robot,
comme tout à l'heure, on parlait de l'IA, l'intelligence artificielle. Si ça se trouve, l'intelligence artificielle, à un moment, va être tellement poussée qu'on va pouvoir lui laisser libre choix du travail, de ce qu'elle fera.
Mais avant d'arriver à un tel stade, ça va pas arriver demain. Attends, on a besoin de travailler encore dessus et de faire évoluer cette technologie.
D'accord. Donc, je pense que là, on peut conclure sur ce débat. Donc, merci à tous nos auditeurs et auditrices. Donc, c'était Elliot en direct d'INTFM. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour un débat sur le développement durable et les enjeux à venir dans le monde. Merci.